VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 26 mai 2023, en direct de Washington, Idrissa Seludia. Pour commencer, les titres. Au Sénégal, mise en garde du gouvernement qui promet la fermeté avant le retour à Dakar de l'opposant Ousmane Sonko. Washington annonce une série de sanctions économiques visant le responsable du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali, Ivan Maslov. Au Soudan, les deux camps s'accusent mutuellement de violer la trêve, les civils toujours sous les tirs. En Sierra Leone, l'arbre emblématique de la capitale Freetown ravagé par une tempête. Il n'y aura pas de défaut de paiement, assure le président américain Joe Biden, alors que l'heure presse pour un accord sur la dette avec l'opposition républicaine. 18 ans de prison pour le chef d'extrême droite Stuart Rhodes pour son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le gouvernement sénégalais promet la fermeté contre toute tentative de trouble à l'ordre public en prévision au verdict la semaine prochaine du procès pour viol de l'opposant Ousmane Sonko. Le leader du parti PASTEF, retiré à Ziguinchor, s'apprête à prendre la route pour la capitale Dakar à la tête d'un convoi. Alexandrine Hollognon.
Après son procès pour viol tenu en son absence mardi, Ousmane Sonko a affirmé mercredi à Ziguinchor son intention de rentrer à Dakar par la route vendredi au plus tard et de transformer ses quelques 500 kilomètres de trajet en caravane de la liberté pour mener le combat final contre le président Macky Sall. Quoi qu'il en coûte, l'ordre sera maintenu, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Pour Abdoulkarim Fofana, aucune déclaration de manifestation n'a été déposée. Il demande à l'opposant de respecter les lois et les règlements. Le président du parti PASTEF Les Patriotes a brillé par son absence à son procès pour viol, disant craindre pour sa sécurité. Il a toujours réfuté les accusations et crié au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle. Le procureur a requis 10 ans de prison pour viol et 5 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Et l'affaire est mise en délibéré jusqu'au 1er juin.
Aujourd'hui, le département d'État impose des restrictions en matière de visa à deux commandants militaires maliens pour leur implication dans des violations flagrantes des droits de l'homme, Michel Joseph.
Selon le communiqué du département d'État, le colonel Mustapha Sangaré, alors commandant du 33e régiment de commandos parachutistes, et le major Lassiné Togola, commandant par intérim du bataillon autonome des forces spéciales, ont été responsables des éléments qui ont mené l'opération Amoura. En mars 2022, les forces armées maliennes, avec le soutien de membres du groupe Wagner, ont mené une opération militaire à Moura qui a fait plus de 500 morts, selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Par ailleurs, le département américain du Trésor a imposé des sanctions à Ivan Alexandrovitch Maslov, chef du groupe Wagner au Mali, pour son implication dans les actions du groupe paramilitaire russe au Mali. Avec ces sanctions, tous les biens et intérêts de Maslov qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés au gouvernement américain. Le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, est lui-même sous sanctions des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union européenne et du Canada.
Au Soudan, avions de combat blindés et batteries anti-aériennes ont fait trembler jeudi les habitants de Khartoum, alors que l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir s'accusent mutuellement de rompre une nouvelle trêve. La guerre qui a fait depuis le 15 avril plus de 1800 morts selon l'ONG Acled, plus d'un million de déplacés ou au moins 300 000 réfugiés selon l'ONU. En conséquence, plus de 25 des 45 millions de Soudanais ont désormais besoin d'aide humanitaire pour survivre selon l'ONU. Depuis l'entrée en vigueur lundi soir de la trêve négociée par Américains et Saoudiens, aucun couloir humanitaire n'a été ouvert pour laisser partir les civils et entrer l'aide humanitaire. l'un des emblèmes de la Sierra Leone, l'arbre fromager multiséculaire qui surplombe la capitale Freetown, a perdu toutes ses branches à la suite d'une tempête mercredi soir. Jean-Roger Bion.
Il ne reste au géant de 70 mètres, connu localement comme le Cotton Tree, que la base de son énorme tronc encore debout à la suite de pluies torrentielles et de vents forts, a annoncé le gouvernement de Sierra Leone. Plusieurs centaines de personnes ainsi que le président Julius Maada Bio ont visité le site en signe de deuil. Pendant des siècles, cet arbre a été un fier emblème de notre nation, un symbole qui a servi d'abri à de nombreuses personnes, a réagi le président Bio. D'après la tradition, c'est sous ce fromager, capoquier, arbre aux amoureux ou bois coton selon les appellations, que les esclaves débarqués d'Amérique du Nord, où ils avaient gagné leur liberté en combattant du côté britannique pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, seraient venus prier et remercier le ciel à la fin du XVIIIe siècle. L'image de l'arbre ornait les billets de banque et les timbres. Sa renommée lui avait valu une visite de la reine Élisabeth II en 1961. L'arbre a déjà été attaqué par les flammes en 2018, puis en 2020.
La garde nationale tunisienne a annoncé hier l'arrestation d'un important passeur déjà condamné à un total de 79 années de prison, accusé d'avoir notamment organisé un départ de migrants tunisiens qui s'est terminé par un naufrage et 20 morts en septembre dernier. Deux groupes d'enquêteurs à Sfax, deuxième ville de la Tunisie et point de départ d'un grand nombre de traversées illégales vers l'Italie, ont réussi à arrêter un organisateur de passage clandestin qui faisait l'objet de 24 avis de recherche et avait été condamné à 79 ans de prison, a indiqué la garde nationale sur sa page Facebook. Sur les trois premiers mois de 2023, la garde nationale a indiqué avoir intercepté ou secouru 14 406 personnes, dont 13 138 ressortissants d'Afrique subsaharienne, le reste étant des Tunisiens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'une des figures de l'extrême droite américaine, Stuart Rhodes, a été condamné jeudi à 18 ans de prison pour sédition, la sentence la plus élevée à ce jour liée à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 par des milliers de partisans de l'ex-président Donald Trump. C'était au moment où les élus certifiaient la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle face à son rival républicain. Le fondateur de la milice Oath Keepers a adopté jusqu'au bout une posture de défi soutenant « Je suis un prisonnier politique ». Le juge fédéral Amit Mehta l'a sèchement remis à sa place, disant « Vous représentez une menace persistante et un danger pour le pays ». Le président Biden a déclaré hier que les États-Unis éviteront un défaut de paiement désastre, alors que les législateurs ont fait une pause de 10 jours sans parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette. Abdulrahman Dia.
Il n'y aura pas de défaut de paiement, a déclaré Joe Biden à la Maison-Blanche, ajoutant que ces négociations ont été productives avec Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants. Ce dernier a déclaré que les législateurs seraient prévenus 24 heures à l'avance s'ils devaient revenir pour un vote pendant les vacances. Les républicains de la Chambre des représentants exigent des réductions allant jusqu'à 130 milliards de dollars dans les dépenses de l'année prochaine en échange de leur vote en faveur d'un relèvement du plafond d'emprunt. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, assure que les négociations continuent. Les membres de la Chambre des représentants ont pris une pause pour les vacances du Memorial Day après leur dernier vote hier matin et ne devraient pas revenir avant le 4 juin. Il reste 7 jours avant le 1er juin, date à laquelle le gouvernement américain pourrait se retrouver à court d'argent pour rembourser ses dettes, ce qui pourrait déclencher une récession et ébranler les marchés mondiaux.
La ministre américaine du Commerce, Gina Raimondo, a fait part jeudi à son homologue chinois Wang Hentao de ses préoccupations quant aux restrictions prises par Pékin à l'encontre de compagnies américaines sur fond de tensions diplomatiques. C'était à l'occasion, ici à Washington, de discussions franches et substantielles. Pékin a imposé dimanche des restrictions aux géants américains des semi-conducteurs Micron, estimant que ces puces présente des problèmes potentiels pour la sécurité des réseaux et menace la sécurité nationale de la Chine. La Minute Éco, Lionel Gaïma.
Bonne nouvelle pour le secteur de l'énergie solaire où les investissements mondiaux pourraient dépasser en 2023 et pour la première fois les montants investis dans l'extraction de pétrole. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié jeudi, quelque 380 milliards de dollars devraient aller cette année au solaire contre 370 milliards de dollars pour la production pétrolière. Les mégaprojets pétroliers du groupe français Total Energy en Ouganda et en Tanzanie ont fait l'objet d'une manifestation inhabituelle à Paris jeudi. Une quarantaine de militants, écologistes, personnalités de différentes religions et croyants se sont enchaînés sur une passerelle au-dessus de la Seine pour dénoncer ces projets. À noter que cette manifestation est intervenue à la veille d'une réunion à Paris des actionnaires de Total Energy. Pour terminer, confronté à une pénurie de devises fortes, l'Égypte a reporté le paiement de ses achats importants de blé, dans certains cas de plusieurs mois. L'Égypte est l'un des plus gros importateurs de blé au monde. La subvention des prix de cette céréale sur le marché local reste un sujet délicat pour les autorités égyptiennes.
Merci Lionel. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Playoff NBA, Boston bat encore Miami et revient à 3-2.
Boston propulsé par un départ canon a enchaîné une deuxième victoire contre Miami, 110-97, cette fois sur son parquet, pour revenir à 3-2 en finale de la Conférence Est, jeudi en playoff de la NBA. Toujours sur ses terres, les Celtics ont construit leur succès au premier quart-temps, remporté haut la main 35-20 à la faveur d'une pluie de tirs à 3 points et n'ont pas lâché jusqu'à la fin. Miami a toutefois déploré l'absence de Gabe Vincent, sa pièce maîtresse en attaque, souffrant d'une entorse à la cheville. Malgré cette deuxième défaite de suite, le Heat reste en ballottage favorable pour tenter de disputer une septième finale. Les Celtics restent dos au mur, puisqu'une défaite sera synonyme d'élimination samedi lors du match numéro 6 chez le Heat. Mais ils ont fait la moitié du chemin dans leur quête d'un exploit historique.
Football en Angleterre, Manchester United s'offre le dernier ticket pour la Champions League.
Manchester United s'est octroyé le dernier ticket anglais pour la prochaine Ligue des Champions en battant Chelsea 4-1. Jeudi, un match en retard de la 32e journée de Premier League. Avec ses 3 points, les Red Devils passent même Newcastle pour la 3e place au classement à une journée de la fin avec 72 points contre 70. Les deux équipes sont hors de portée de Liverpool, 5e avec 66 points.
En Espagne, le domicile du joueur du FC Valence, Justin Kluivert, cambriolé.
Deux personnes ont été légèrement blessées mercredi soir par trois hommes cagoulés lors d'un cambriolage au domicile du milieu de terrain néerlandais du Valence FC. Justin Kluivert a indiqué hier jeudi la garde civile espagnole. Selon des médias locaux, les blessés sont deux femmes, dont la compagne du joueur qui aurait appelé la police. Au moment du cambriolage, Justin Kluivert, fils du célèbre ancien international néerlandais Patrick Kluivert, était avec son équipe qui jouait jeudi soir contre Mallorca au Baleares en championnat. Ils auraient volé des bijoux, des montres et de l'argent pour une valeur d'environ 150 000 euros, rapporte la presse locale. Début mai, l'attaquant du Real Madrid, Rodrigo Goes, avait également été victime d'un cambriolage dans une commune proche de la capitale espagnole. Kluivert et Rodrigo s'ajoutent à une longue liste de joueurs victimes de cambriolage en Espagne.
À 14 mois des JO de Paris, la patronne du sport français jette l'éponge.
Moins de 2 ans après son élection, la présidente du comité olympique et sportif français, Brigitte Henrich, a démissionné jeudi de son poste, un coup de théâtre à 14 mois des JO de Paris pour tenter de sauver une institution plongée dans la crise depuis plus d'un an et demi. S'exprimant devant les membres du dit comité, elle a détaillé le bilan de son action avant d'annoncer sa démission qui sera effective le 29 juin, un scénario que peu avaient prédit. Et c'est tout pour les sports.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Union africaine essaie de trouver des solutions aux crises qui minent la démocratie en condamnant des coups d'État. Mais sa vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale, est encore loin de la réalité, Nalit Talani.
L'Union africaine a eu à suspendre de toutes ses activités des pays comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Soudan en réponse au coup d'État militaire pour encourager le retour des civils au pouvoir. Mais elle n'a pas sanctionné le pouvoir militaire en place au Tchad et elle est accusée par ses détracteurs de n'avoir rien fait pour éviter ou arrêter les multiples conflits internes qui affligent le continent. Autre reproche, l'organisation garde aussi le silence face au changement de constitution par des présidents africains pour se maintenir au pouvoir.
Beaucoup d'Africains, moi inclus, sont très très impatients de voir l'évolution de la réforme au sein de l'Union africaine, de voir la façon dont l'UA traitera des problèmes du peuple africain. Je pense que cette impatience vient du fait que les Africains ont été très patients avec l'OUA. Donc je crois qu'après 45 ans de patience, les Africains ne veulent plus attendre avec l'Union africaine.
Agapito Mbamokui, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Guinée équatoriale, condamne l'Union africaine de ne pas faire grand-chose pour la jeunesse.
Nos jeunes meurent encore en essayant de trouver de l'espace et de la bonne vie ailleurs. On voit que quand on veut passer d'un pays A à un pays B en Afrique, c'est encore très difficile. Il est temps qu'on commence à donner le passeport aux hommes d'affaires, aux étudiants, à toutes ses mères, tous ses pères et ses frères dans le besoin.
Pour Amina Shaouir Mohamed Djibril, ancienne secrétaire d'État, avocate et diplomate kényane, donner des opportunités aux jeunes est une dette que les dirigeants africains leur doivent.
Pouvoir travailler au Kenya, vivre au Botswana, se marier au Tchad et probablement investir au Sénégal, nous leur devons cette dette, nous devons le faire pour eux.
L'Union africaine dit avoir mis en place un cadre de suivi et d'évaluation de l'état de l'intégration régionale africaine censé transformer les économies fragmentées de l'Afrique. Pour que cette organisation atteigne ses objectifs, le diplomate sénégalais Abdoulaye Batili évoque l'indépendance financière.
La question du financement de l'Union africaine est l'un des enjeux majeurs de cette organisation. C'est une question de souveraineté pour le continent. On ne peut pas parler d'indépendance, de notre souveraineté tout le temps. On ne peut pas parler de solution africaine aux problèmes africains si d'autres payent pour nous.
Pour s'assurer de la réalisation de ces objectifs et de la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, l'Union africaine a mis au point son agenda 2063 en vue d'une transformation socio-économique et intégrative du continent.
Par ailleurs, malgré le démantèlement de l'Organisation de l'Unité africaine et la création de l'Union africaine à sa place en 2002, le nom et la date de la Journée mondiale de l'Afrique ont été conservés pour célébrer l'unité de l'Afrique. Chaque année, cette journée est l'occasion de célébrer les avancées du continent et de mettre en avant les défis qu'il lui reste à relever. Pour le bilan et les perspectives, Idriss Fall a reçu dans nos studios Henri Nzouzi, analyste politique.
C'est un processus qui a commencé en 1963, qui s'est prolongé à partir de 2002 avec notamment l'arrivée de l'Union africaine. Dans un premier temps, on l'a vu pendant les 40 dernières... premières années, l'EUA s'est plus focalisé sur la décolonisation et sur la manière la plus efficace d'en finir avec l'apartheid. C'est la raison pour laquelle certains pays, comme notamment le Zimbabwe, le Mozambique et l'Angola, ont accédé à l'indépendance un peu plus tard. Pour autant, les objectifs qui avaient réuni les pères fondateurs n'ont pas vraiment été respectés, puisqu'il y avait bien évidemment le respect de l'intégrité territoriale des États, de leur souveraineté, une manière de venir en aide à ceux qui étaient en difficulté. Mis à part les pays que j'ai cités en matière de décolonisation, on peut pas dire vraiment que le bilan ait été à 100% positif, en dehors évidemment de certaines avancées qui ont pu être enregistrées ça et là.
On parle de ZLEC.
La zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2002. On sait que ce n'est pas toujours la panacée pour certains pays africains qui voient, malheureusement à travers cette initiative, qui reste quand même intéressante, une occasion de perdre, malheureusement, il faut bien le dire, une partie importante de leurs ressources douanières dans un contexte où certains pays sont mieux préparés que d'autres, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait à ce jour à peine 40 pays qui aient ratifié en fait cette convention.
Maintenant, il y a les blocages, les guerres, et celles qui actuellement en cours au Soudan, les guerres dans l'est du Congo, les guerres un peu partout.
Alors, ce sont des obstacles, effectivement, sur lesquels les pays africains doivent travailler raisonnablement. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe au Soudan, on ne peut pas dire que l'Afrique soit très présente, notamment dans le processus de discussion ou de négociation. Ce sont plutôt les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui sont à la manœuvre, ce qui montre bien qu'au niveau du continent africain, il y a encore des disparités ou en tout cas une différence d'appréciation sur le sens à donner sur certains conflits. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience pour que les Africains puissent enfin être en capacité de régler eux-mêmes leurs propres conflits.
Mais le terrorisme gagne du terrain un peu partout.
C'est exact.
On a l'impression que l'Union africaine n'existe pas à ce niveau-là. Mais
bon, alors, à la décharge de l'Union africaine, on ne peut pas attendre tout d'elle. Il y a des organisations régionales et sous-régionales qui ont un certain nombre d'objectifs à atteindre, notamment en termes de libre circulation, en termes d'intégration économique. Certains ont franchi le pas, notamment de la résolution de certains conflits, en étant en première ligne pour essayer de trouver une solution. On l'a vu avec la CDAO, notamment dans le dossier de la Guinée, du Mali et du Burkina. Ce n'est pas toujours suffisant, mais c'est quand même un pas qui va dans la bonne direction.
L'analyste politique Henri Souzi. En République démocratique du Congo, 5 jours après une marche de l'opposition dispersée par la police, des leaders de cette même famille politique et leurs partisans ont été empêchés hier, jeudi, de tenir un sitting devant la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Ils protestaient contre ce qu'ils appellent le chaos électoral qui se prépare. Eddy Sango a joint à Kinshasa un des leaders de l'opposition congolaise, l'ancien premier ministre et actuellement sénateur, Augustin Matata Mponyo.
La police nous a empêchés de pouvoir nous rendre devant le siège de la CENI. Elle nous a arrêtés presque à 500 mètres du siège de la CENI et tous nos manifestants ont été pratiquement éloignés du siège. Bon, nous-mêmes, nous sommes restés là pendant près de 3 heures, insistant qu'on nous laisse faire le sit-in, mais la police n'a pas voulu le faire.
Et pourquoi vouliez-vous manifester devant la CENI? Qu'est-ce que vous reprochez à la CENI? L'audit du fichier électoral venait d'être accepté par des experts que la CENI a choisi.
La loi électorale, comme vous le savez, elle est exclusive. Elle n'a pas tenu compte des désidératas de toutes les parties prenantes. La CENI elle-même, sa composition, elle n'a pas été conforme au règlement qui recommande la nomination de personnes. Et tout comme l'enrôlement qui vient de se tenir, c'est un enrôlement totalement chaotique. La CENI est censée être une structure juste, transparente, et le fichier électoral est carrément bombé de plusieurs effectifs ou de plusieurs enrôlés fictifs. Et là, nous ne sommes pas à mesure de pouvoir affirmer que le fichier électoral est conforme aux attentes de l'ensemble de la population. Comment est-ce que le fichier électoral peut être audité à moins d'une semaine par une structure recrutée à la va-vite par la CENI? Non, cet audit devait être fait par un cabinet international de renom, compétent et disposant des références plus ou moins crédibles. Mais on recrute à la va-vite quelques personnes ici à Kinshasa pour venir carrément certifier ce qui a été fait par la CENI. C'est pas ça qu'on appelle audit, c'est pratiquement un théâtre.
Votre sit-in a été empêché juste 4 jours ou 5 jours après une manifestation qui a été brutalement dispersée. Que pensez-vous faire maintenant? Allez-vous continuer avec des manifestations, des revendications ou procéder autrement?
Bon, la manifestation d'aujourd'hui, bien que pacifique, a été aussi dispersée brutalement avec des blessures. Un des leaders a été blessé. Moi-même, j'ai assisté à son bassement, donc je ne vous raconte pas des histoires. Cette brutalité prouve à suffisance que nous sommes dans un régime pratiquement dictatorial et qui ne tient pas compte de la volonté de la population de s'exprimer librement. Et ça, c'est dommage. Mais nous ne pouvons pas non plus nous arrêter parce qu'il s'agit là de la volonté exprimée de la population qui veut à tout prix que les élections soient plutôt crédibles, transparentes, justes et non pas un simulacre d'élection.
Joint hier par Eddy Issango, le sénateur Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre de la RDC.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, le nombre de déplacés internes est estimé à plus de 2 millions. Une situation due aux attaques armées que subit le pays depuis 2015. À Ouaigouya, ville située à 180 km au nord de la capitale Ouagadougou, de nombreux déplacés ont été accueillis par des membres de leur famille. Une situation synonyme de charges supplémentaires pour les familles hôtes. Notre correspondant Gildas Dain est allé à la rencontre de la famille Orgo, qui reçoit depuis quelques années des dizaines de parents ayant fui leur village. Son reportage.
6h du matin au domicile de Suleiman Forgo, c'est l'heure du petit déjeuner. Dans ce quartier de Waiguya, et les gobelets dans lesquels thé et café sont servis sont prioritairement destinés aux femmes et aux enfants. C'en est ainsi chaque jour pour ces personnes qui ont dû fuir leur village. Chacune des histoires de ces déplacés est un drame. Awa Sawadogou a fui Tougou, son village situé à une vingtaine de kilomètres de là.
Ce sont des terroristes qui sont venus nous chasser. Nous étions tranquillement chez nous. Un matin, ils nous ont tout simplement chassés.
Tout comme Awa, Kadiso Bouda a aussi été chassé de Boulouga. Pour ses deux femmes et 10 des leurs, ce domicile est désormais le dernier abri.
On est parti sans rien du tout. Toute la famille est venue ici. Et c'est le propriétaire de cette maison qui nous abrite et nous nourrit.
Le chef de famille dont elle parle, c'est lui, Suleiman Porgo. L'homme et sa famille accueillent un nombre important de déplacés. Tout commence en 2020.
Avant, j'étais plus d'une soixantaine de personnes qui venaient ici. C'est vraiment pas facile, quoi. Mais on a tenté de gérer avec les moyens qu'on a.
Ainsi, il va réussir à caser de nombreux déplacés internes en louant des maisons dans des quartiers précaires. Mais à sa grande surprise, avec la récente attaque de Karma Village, 57 personnes. À nouveau, d'autres seront relogés ailleurs.
Mais l'autre partie est toujours là. Sur le plan nourriture, c'est la croix et la bannière. Moi, j'avais une famille de 15 personnes. Un simple bois, si vous payez 2000 francs de bois, c'est juste pour la zone. C'est fini, il faut payer encore pour une soirée.
Le sac de riz de 50 kilos n'excède pas 4 repas. Mais ce n'est pas le seul casse-tête.
60 et quelques personnes. Vous voyez cette terrasse. C'est ici que ces gens dorment. S'il n'y a pas de pluie, tout le monde dort ici. Et s'il y a une pluie, tout le monde rentre dans les maisons que vous voyez là. Ça te coince.
De ce beau monde, certains ont une histoire qui fait froid dans le dos. C'est le cas de Sali, nom d'emploi.
Un jour, les terroristes ont débarqué comme ça et commencé à tuer les gens du village. Nous n'avons pas pu résister. Ils étaient nombreux. Ils ont tué beaucoup de personnes. Mes frères ont été tués. Ensuite, ils m'ont pris. Ils m'ont amené en brousse. Ils me frappaient et me menaçaient à tout moment. C'était terrible et j'étais gravement blessé.
Par miracle, il va réussir à échapper à ses geôliers. Avec cependant d'importants sévices corporels, mais aussi une balle dans le dos lors de sa fuite.
J'ai fait 2 semaines de captivité et j'ai pu m'enfuir une nuit. J'ai marché pendant plusieurs jours pour arriver à Wayweb. Imaginez-vous, tu es chef de famille et tu te retrouves, toi et toute ta famille, à la charge d'un autre chef de famille. C'est grave. C'est comme vous, c'est de l'aide.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Kelvin Fou.